Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marine Digabel.
Bonjour, nous abordons aujourd'hui le sujet de l'erreur médicale. Alors nous accueillons pour l'occasion Georges David, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, professeur honoraire d'histologie embryologie et correspondant de l'Académie des sciences, ainsi que Claude Sureau, membre de l'Académie nationale de médecine également, président honoraire et membre du comité consultatif national d'éthique. Alors Georges David, Claude Sureau, merci d'avoir accepté notre invitation. La médecine est une discipline de plus en plus performante puisqu'on vit de plus en plus vieux et paradoxalement de plus en plus d'incidents sont mis en lumière et portés devant la justice. Alors ces incidents sont-ils plus nombreux qu'auparavant ? Ou s'agit-il davantage d'un changement de culture avec ce qu'on pourrait appeler une judiciarisation croissante ? Voilà l'une des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Autre question la plus importante sans doute, comment limiter ces événements indésirables ? Et puis comment se passe l'indemnisation des victimes ? Alors je terminerai par une question peut-être un peu provocative. Si on considère que la médecine est davantage un art qu'une science, peut-on réclamer un droit à l'erreur médicale ? Autrement dit, la faute est-elle toujours imputable au personnel soignant ou y a-t-il parfois d'autres explications pour donner l'origine d'une erreur médicale ? L'Académie nationale de médecine a entendu des magistrats, des universitaires et des médecins sur cette question. Un rapport sur ce sujet vient de sortir aux éditions Lavoisier. Vous avez également co-dirigé un livre sur l'erreur médicale au PUF avec Dominique Lecourt. Donc voilà, vous êtes tout à fait expert de la question. Peut-être pour commencer, vous pourriez nous redire quel a été le travail de l'Académie nationale de médecine sur le sujet de l'erreur médicale. Je sais que vous avez organisé un groupe de travail. Alors dans quel état d'esprit avez-vous lancé ce projet ?
Alors, je crois que si on remet les choses dans leur ordre chronologique, l'initiative de la réflexion sur ce thème incombe précisément à Georges David, qui, lors d'un exposé sur la responsabilité médicale, avait invité le procureur général Burgelin, quand il était en fonction, et ça avait fait l'objet d'un échange, d'un débat extrêmement intéressant. Alors, moi-même, lorsque j'avais présidé l'Académie de médecine en 2000, nous avions été très intéressés par l'augmentation des contacts entre l'Académie et des instances juridictionnelles, c'est-à-dire Conseil d'État, Cour de cassation, Tribunal d'instance, Cour d'appel de Paris. Et nous avions organisé, avec Georges David précisément, des réunions, trois grandes réunions sur ce thème qui s'étaient tenues au Palais de justice au cours de l'été 2000. Et la suite naturelle de cette réflexion a été envisagée lorsque le président en exercice, il y a maintenant 3 ans, de l'Académie de médecine, M. Hollander, qui est professeur de chirurgie à Strasbourg, avait envisagé de reprendre le contact. Alors, d'où la création de ce groupe de travail auquel vous venez de faire allusion, qui était constitué à parts égales d'une part de représentants de l'Académie de médecine, bien entendu, dont la liste est donnée dans le livre, et d'autre part de hauts magistrats, donc Conseil d'État, Cour de cassation, avocats généraux après la Cour de cassation et conseillers à la Cour de cassation. Et d'emblée, et là je vais céder la parole à Georges David parce que c'est lui qui a été vraiment l'âme de cette réflexion, il nous est apparu que plutôt que de se perdre dans des discussions, vous savez qui étaient très à la mode à l'époque, sur les limites de la responsabilité, et peut-être qu'on y reviendra, vous avez fait allusion vous-même à l'instant, le problème de la distinction entre la faute et l'erreur, qui est un problème très vaste, compliqué, bien plutôt que de s'obstiner à discuter, voire à se chamailler en termes de considération sur la responsabilité médicale, Georges David a eu l'idée de tenter plutôt, ça vous explique le sous-titre du rapport de l'Académie, c'est de la sanction, c'est la chose habituelle jusqu'à présent, à la prévention. Et donc, toute l'idée originale de ce rapport et de cette réflexion, c'est de passer d'une situation traditionnelle depuis que le monde est monde, de la sanction à la prévention. Et je crois que maintenant, Georges David peut nous expliquer ce qu'il entendait, ce qu'il est peut-être possible de faire en termes de prévention.
Oui. Vous avez évoqué dans votre introduction le fait que l'erreur médicale existe. On ne peut pas le nier, la médecine est pratiquée par des hommes et l'erreur est humaine. Mais elle a été longtemps dissimulée. Et à l'heure actuelle, au moment où on commence à en parler plus ouvertement, on a l'impression à la fois qu'elle augmente, vous avez laissé penser ça en introduction. En réalité, il faut replacer cette notion dans l'évolution même de la médecine moderne. Elle est devenue de plus en plus active, interventionniste. Il y a de plus en plus d'actes. Elle était passive avant, faute de solutions thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou qu'elles soient chirurgicales. Inévitablement, pour ces deux raisons, parce qu'elle est plus agressive en soi, elle peut créer des effets indésirables, c'est le terme que l'on prend maintenant pour parler d'accident médical. Mais en même temps, il faut tout de même relativiser, c'est-à-dire que l'augmentation n'est une augmentation absolue, mais relativement à l'augmentation formidable des interventions médicales et chirurgicales, le taux de l'erreur est tout de même à diminuer dans l'ensemble. Mais, dans le même temps, où cette médecine devenait plus puissante, plus complexe, elle a été investie d'un formidable espoir de la part de la population et surtout de ceux qui sont patients. Et en effet, il y a eu des réponses au fur et à mesure, de plus en plus étonnantes pour nous qui l'avons suivi depuis un certain nombre d'années avec Claude Sureau dans ce que l'on pouvait attendre. Mais en même temps, paradoxalement, mais ça s'explique bien tout de même, la société est devenue de plus en plus intolérable à l'accident médical. On maniait des outils de plus en plus agressifs, reconnaissons-le, mais en même temps, il y a une exigence de sécurité qui a augmenté à un niveau plus élevé, et ça a été exprimé par un des participants représentant les usagers dans notre symposium, la sensibilité quant à la sécurité, quant à l'absence d'effets indésirables, a de loin augmenté.
Alors, est-ce qu'il faut dire que les patients doivent s'engager quelque part à accepter qu'une opération, par exemple, puisse avoir des effets indésirables? Est-ce que ça fait partie d'une balance des risques-bénéfices à avoir en tête au moment où on accepte un acte médical?
Je crois que, vous savez, il y a un terme que les journalistes utilisent volontiers, qui est celui-ci. On entend en permanence à la radio, le risque zéro n'existe pas. Bon, ça devient vraiment un lieu commun. C'est évident que le risque zéro n'existe pas, et c'est, je crois, et ça doit être, pour les patients, évident que quand vous subissez une intervention chirurgicale, ou quand vous prenez un comprimé d'aspirine, il y a un risque. Voilà. Alors, tout le problème, et ça rejoint une des remarques que vous avez faites il y a un instant, tout le problème est de savoir si ce risque est un risque inévitable. J'ai le souvenir, au temps de ma jeunesse, il y a bien longtemps, d'avoir, j'ose le dire, je crois bien, tué un malade avec un comprimé d'aspirine. Tout simplement parce que ce comprimé d'aspirine a entraîné des conséquences pathologiques dans une situation pathologique elle-même extrêmement redoutable. Et au bout du compte, ça a été la mort. Ça m'a frappé, ça remonte à plus de 50 ans, mais c'est un problème très important. Donc, ce risque existe. Et je pense que l'ensemble de la population en est de plus en plus consciente. Alors, le problème, et c'est là où la difficulté apparaît, c'est la matérialisation de ce risque. Est-ce qu'elle est la conséquence simplement du fait que le risque existe et qu'on n'a pas de chance? Ou est-ce que c'est la conséquence d'une erreur? Ou plus grave encore, est-ce que c'est la conséquence d'une faute? Et c'est là, justement. Et vous voyez, c'est très intéressant, jusqu'à une époque toute récente, même on peut dire jusqu'à aujourd'hui, le souci juridictionnel a été de faire, dans la mesure du possible, la distinction entre l'erreur et la faute. Et puis, on a bien vu très nettement l'évolution des choses depuis un célèbre arrêt Mercier, en particulier de 1936. On a vu très progressivement une évolution des choses conduisant à une confusion totale entre l'erreur et la faute et conduisant dans un souci que l'on peut comprendre, et je crois que c'est capital, cela, dans un souci compassionnel d'indemniser des gens qui souffraient dans leur chair à la suite d'un acte médical. Je dis bien à la suite d'un acte médical et pas forcément en raison d'une erreur médicale ou d'une faute médicale, mais que dans un souci compassionnel a conduit à dédommager, et donc en quelque sorte à dire, une sorte, à réaliser une sorte d'équation égale effet indésirable, égale faute, égale indemnisation. Alors là, on voit bien qu'on est dans une voie qui, dans une certaine mesure, est sans issue. Et c'est bien parce que les pouvoirs publics ont pris conscience, il y a quelques années, très exactement en 2002, qui ont pris conscience, par la loi Kouchner du 4 mars 2002, du fait qu'il y avait ce qu'on appelait les aléas. Jusque-là, on ne reconnaissait pas l'existence d'aléas. Alors, ça a été un progrès qui n'a pas d'ailleurs été facilement accepté, ni par tous les médecins, ni par tous les juges. On a considéré que l'aléa médical était inhérent à l'activité médicale ou chirurgicale et pouvait être pris ou devait être pris en charge par la collectivité. Encore une fois, ça n'a pas été sans mal et je ne peux pas dire que ce soit totalement admis par tous les intervenants du monde judiciaire ou du monde médical. Mais vous voyez, tout ceci, ça aboutit à une prise en considération des erreurs médicales, des fautes médicales et de l'aléa médical. Mais si je puis dire, et je crois que c'est ça l'idée fondamentale et originale de Georges David, tout ceci vise à corriger un effet pervers d'un acte passé. Et tout le problème fondamental, est au contraire d'amener le corps médical, c'est lui qui, le corps médical et les organismes de santé en général, tous les intervenants dans le système de santé, à les amener à réfléchir aux circonstances, éventuellement combinées les unes avec les autres, qui ont conduit à la matérialisation du risque, de manière à ce que cette analyse puisse conduire à une prévention. Et vous voyez, on peut dire que c'est là le leitmotiv fondamental de ce rapport, c'est de passer de la sanction, justement, à une analyse du risque débouchant sur la prévention.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission. Nous retrouvons Claude Sureau et Georges David au sujet de l'erreur médicale. Georges David, vous parliez tout à l'heure du caractère secret de la faute dont on parle, enfin de la faute ou de l'erreur médicale dont on parle ou dont il faudrait parler de plus en plus. Est-ce que prévenir l'erreur médicale, ça commence déjà par en parler et par signaler les incidents ?
Sans doute, mais en même temps, donc dans cette démarche, comme vient de le souligner Claude Sureau, qui change complètement de point de vue. Nous ne parlons plus de la distinction, faute, etc. Nous nous plaçons, prenons une comparaison, dans ce qui s'est passé pour l'accident automobile. Pendant longtemps, on l'a traité sous l'angle de la responsabilité. Maintenant, vous voyez bien qu'il s'est passé, ça a été accepté comme un problème général et c'est traité sous l'angle de la prévention. Et c'est à partir du moment où on l'a traité sous l'angle de la prévention qu'on a fait de formidables progrès. Ces progrès sont dans notre domaine, dans le domaine médical. Donc, abandonnons les terminologies fautes et même celles d'erreurs, parlons d'événements indésirables. Bon. Alors, ces événements indésirables, ils sont à replacer dans un changement de fonctionnement de la médecine pour les analyses sous l'angle d'une prévention. Le changement extraordinaire, surtout dans la médecine hospitalière, c'est qu'elle est devenue très complexe, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Lorsque l'on entre maintenant, en tant que patient dans un hôpital, on n'a plus affaire à un seul médecin ou à un seul chirurgien, un seul spécialiste, on entre dans une véritable chaîne soignante. On aura affaire successivement des dizaines de soignants, même pour parler du corps médical, même on aura affaire à celui qui conduit le traitement principalement, et puis à des spécialistes de tous ordres. Et pour que ceci fonctionne, tenant compte que l'on manipule et que les décisions à prendre sont d'une beaucoup plus grande gravité qu'auparavant quand il s'agissait simplement de distribuer des tisanes, il faut, première exigence, qu'il y ait une coordination, une cohérence absolument parfaite. Alors, en somme, on est passé d'une médecine un petit peu personnelle, du rapport entre un patient et un médecin, à un patient, lui il reste toujours unique, et c'est bien la différence avec la chaîne industrielle qui fonctionne à coup de standardisation, nous le patient reste unique, mais en face, il y a un ensemble soignant beaucoup plus compliqué. Donc, quand on fait une analyse de l'erreur, bien entendu qu'on trouve généralement le point où cette chaîne, le point exact où il y a eu un maillon qui a cédé. Et généralement, le maillon, c'est un maillon humain, c'est bien entendu. L'homme est beaucoup plus faillible que les machines. Bon. Donc, tendance ancienne, c'était, ça y est, on tenait le coupable. Dans un état d'esprit de sanction, on avait le coupable. Et on centrait tout sur une responsabilité individuelle. Maintenant, dans notre démarche de prévention, on va resituer cette faute dans le cadre du fonctionnement général. Pourquoi est-ce ce maillon qui a lâché? Est-ce que l'organisation était bonne? C'est une démarche qui est donc complètement différente et où nous avons été inspirés d'ailleurs très très fortement par ce qui s'est passé dans le domaine de l'aéronautique.
Justement, quels enseignements avez-vous tirés de l'observation d'autres secteurs?
Je viens de citer l'aéronautique. Il faut savoir que lorsqu'il y a un accident d'avion, l'avantage de l'aéronautique, si je peux m'exprimer ainsi, étant donné ce que je vais dire, c'est qu'un accident d'avion, ça ne passe pas inaperçu. Parce que, à la même heure, au même endroit, ça touche 10, 20, 30, maintenant on arrive à une centaine, parfois c'est même dépassé, d'individus. Deuxième cause pour que ça frappe, c'était des individus bien portants. En échange, dans la médecine. Mais tout ça peut passer totalement inaperçu. Au cours d'une année, un hôpital peut très bien avoir le même niveau d'accidentologie. Vous voyez, je reviens à ce terme vague, mais fourre-tout, mais volontairement fourre-tout, qui est celui d'accident. On peut très bien avoir sur un hôpital, un grand hôpital parisien, ça a normalement 1000 ou 1100, 1200 décès par an. Vous en mettez 100 de plus, mais dispersés au long de l'année, ça passe totalement inaperçu. Voilà un inconvénient par rapport à l'aviation. Mais néanmoins, c'est resté un modèle pour nous, le système de l'aviation. Parce que, à partir de cet incident qui se révèle d'une manière totalement objective, et on va faire, les autorités dans ce domaine vont faire deux types de démarches. Une, qui est confié à la justice, c'est la démarche judiciaire. Y a-t-il eu une faute, justement? Vous voyez, c'est le fonctionnement ancien pour nous, la médecine. Et puis l'autre, simultanément, là, ces procès de démarche, ça va être le fonctionnement sous l'angle de la prévention. Alors, on va tout reprendre, mais très minutieusement, et les circonstances, et même s'il y a eu une erreur de pilotage, pourquoi cette erreur de pilotage a-t-elle été permise alors qu'il y a un entraînement des très, très, très notes. Donc, il y a une démarche qui est une démarche d'analyse par des spécialistes de l'aéronautique. Il y en a un qui est une démarche relativement publique et qui aboutira à des sanctions, et l'autre qui va aboutir à des mesures nouvelles. Mais Claude Chiro là-dessus.
Oui, bah, ça me paraît tout à fait exact et judicieux. Et j'aurais tendance à ajouter, d'ailleurs, tu as prononcé le nom analyse. On sait bien que le bureau qui s'occupe de ce genre de recherche s'appelle le bureau. On dit souvent enquête accident, ce qui est un terme inexact, c'est le bureau enquête analyse, qui correspond justement à cette analyse rétrospective de la chaîne des événements qui ont conduit à l'accident. Mais l'aéronautique nous apprend quelque chose d'autre, et c'est également dans ce rapport, et je crois que c'est extrêmement intéressant. C'est que, je parle surtout de l'aéronautique civile des pilotes privés, je ne parle pas des compagnies aériennes qui ont elles-mêmes leurs propres problèmes et leur propre organisation. Mais, d'une manière très intéressante, le BEA de l'aéronautique civile a réussi à persuader les pilotes civils de rapporter, non pas leurs accidents, parce que les accidents, comme Georges vient de le dire à l'instant, ils sont évidents, non pas seulement les accidents, mais de rapporter également ce que l'on peut appeler d'un terme un peu vulgaire les presque accidents, ce qu'en termes anglo-saxons on appelle les near miss. C'est-à-dire que si vous avez deux avions qui se croisent dans le ciel à une distance inférieure à la distance réglementaire, ils se sont croisés et puis il ne s'est rien passé. Les pilotes ont eu chaud, ils se disent « on a eu de la chance », point. Ils se disaient « on a eu de la chance », point. Au même titre que un médecin qui se rend compte qu'il a fait une erreur de prescription. Mais heureusement, pour une raison X, cette erreur de prescription n'est pas entrée en application. Il se dit « mince, j'ai fait une boulette, j'ai eu de la chance, le malade va bien, tout le monde va bien, je ne dis rien ». Et vous voyez, il y a une différence. Les pilotes de l'aéronautique civile ont compris la nécessité de révéler précisément au BEA ces presque accidents, de manière à ce qu'une analyse précise de ce presque accident conduisent à des méthodes de prévention, alors que le corps médical, et nous le déplorons, n'a pas encore fait la même démarche qui consisterait à dire « Ouh là là, j'ai fait telle erreur de prescription, tel geste qui n'était pas le geste opportun, telle attitude que l'on peut discuter, j'ai rien dit, tout s'est bien passé, tout le monde est content », eh bien, il faudrait persuader le corps médical et l'ensemble des intervenants de révéler à, alors, un simili BEA pour la médecine, vous voyez, quelque chose, sur quoi d'ailleurs les autorités sont en train de réfléchir à l'heure actuelle, qui permettrait de colliger l'ensemble de ces presque accidents de manière à rechercher quelle est leur origine commune et de manière à la prévenir.
On a l'impression un peu d'un système à deux vitesses avec d'un côté des démarches comme la vôtre qui consistent à adopter une nouvelle approche pour prévenir les accidents indésirables et puis d'un autre côté cette judiciarisation croissante que j'évoquais en introduction qui touche particulièrement certaines spécialités. Alors pourquoi ce décalage en fait entre le côté judiciaire et l'indemnisation des victimes et puis la prévention ?
Alors là, vous mettez le doigt avec une certaine perversité, je dois le dire, avec une grande acuité, vous mettez le doigt sur un problème extrêmement délicat, très très délicat. Parce que il est de fait qu'aujourd'hui, vous avez le système juridictionnel, voilà, dans sa globalité, et encore une fois, comme nous l'avons dit depuis le début, orienté vers la recherche d'une responsabilité individuelle ou collective. Je dis bien individuel ou collectif, dont une affaire célèbre dont Georges David dira quelques mots dans un instant, qui est l'affaire de Trousseau, est extrêmement révélatrice. Donc il y a cette responsabilité individuelle ou collective, mais dans tout état de cause, civile et pénale, impliquant des individus. Et au fond,
ça implique forcément toujours des individus.
Alors, impliquant, traditionnellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est des individus. Si je puis me permettre d'ailleurs, une audacieuse comparaison. Nous avons eu en France, dans un ordre d'idées complètement différent, qui est celui de l'erreur judiciaire. Nous avons eu un exemple, et d'ailleurs dans le livre auquel vous faisiez allusion, il y a justement une intervention particulièrement opportune d'un haut magistrat. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que quand l'affaire d'Outreau, puisqu'il s'agit d'elle, a été analysée en profondeur, les personnalités du monde juridique ou politique qui se sont intéressées à ce problème ont toutes ou à peu près toutes convenu qu'il ne fallait pas porter le doigt accusateur de la justice sur le magistrat instructeur, mais qu'il fallait envisager, comme le disait Georges à l'instant, la chaîne des événements et la chaîne des intervenants de manière à corriger, à en avoir des mesures préventives permettant d'éviter les conséquences de ces erreurs que l'on peut qualifier de systémique ou organisationnel. Et au fond, notre démarche n'est pas éloignée de celle-là. Nous disons, il y a la responsabilité. Et surtout, il faudrait pas, surtout, c'est notre crainte. Je le dis franchement, c'est notre crainte. Ça a été notre crainte tout au long de nos débats dans ce groupe de travail. Notre crainte a été que les magistrats soient tentés de dire, mes chers médecins, on voit bien où vous voulez en venir. Vous êtes en train de tenter de noyer votre responsabilité personnelle ou même collective dans un concept flou de responsabilité organisationnelle. Et ce n'est pas ça notre propos, bien entendu. Au contraire, nous sommes très heureux de voir que les autorités politiques et judiciaires ont mis en avant, à propos de l'affaire Doutreau, justement, les déficits de fonctionnement de l'organisation. Et nous disons simplement, eh bien, de même que dans le milieu judiciaire, il est légitime de se pencher sur ces défauts d'organisation conduisant à des erreurs avec des conséquences tout aussi dramatiques et parfois même plus dramatiques qu'en médecine. Et d'un autre côté, en médecine, on ne peut pas faire l'impasse sur la recherche d'une responsabilité organisationnelle dont la prévention des effets peut être extrêmement efficace.
Oui, je crois, et il en résulte de cette explication bien détaillée de Claude, que nous ne pouvons pas éliminer la démarche judiciaire. Elle existe, on comprend que le patient qui a été victime d'un dommage, d'un événement qui était totalement imprévu, dont on ne l'avait pas informé, demande une réparation, bien entendu. Et cette punition, pour reprendre des termes simples, continue à peser dans l'exercice de la médecine et elle freine en quelque peu la campagne que nous avons amorcée de signaler, de déclarer l'erreur. Et au demeurant, de temps en temps, on s'entend dire, mais dans le fond, puisqu'il y a un accident et qu'il y aura une analyse judiciaire, eh bien là, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il en est. Quel est l'intérêt ? Nous nous ramenons aux principes qui viennent d'être décrits par Claude. C'est le plus petit incident, mais qui serait susceptible d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus grave. Alors même que ça s'est bien passé, il faut qu'on s'en occupe. On ne peut pas se contenter, pour progresser en matière de précaution, des accidents qui se sont réalisés. Et pourquoi ? Pourquoi ne peut-on pas utiliser la chaîne judiciaire ? Peut-être pourrait-on l'illustrer en donnant un exemple tout à fait concret. Tu as évoqué tout à l'heure l'affaire de Trousseau. Rappelons-la en quelques mots. C'est passé il y a 5 ans. Un enfant, un nourrisson, entre pour une diarrhée aiguë dans un hôpital. La dénomination de l'affaire Trousseau évoque le nom de cet hôpital, remarquable hôpital d'enfants au demeurant, et par une suite d'enchaînements qui ont été analysés ultérieurement, 3 jours après, ce qui ne devrait plus arriver de nos temps, s'est produit, l'enfant est décédé d'une banale diarrhée aiguë. C'est absolument intolérable et ça a déclenché une affaire judiciaire. Et quand on regarde dans son détail, on ne peut pas reprendre ici le détail de cette affaire, mais on se rend compte qu'il y a eu un enchaînement malin, pourrait-on dire, de petites défaillances au départ. Et puis tout d'un coup, ça s'est emballé, ça a pris un stade irréversible, c'était la nuit, et il y avait comme seule surveillance une aide-soignante expérimentée, mais qui n'aurait pas dû être dans cette position. Elle ne sait pas prendre la décision adaptée. La démarche judiciaire déclenchée par les parents indignés, et on les comprend, est tombée tout de suite, à première analyse, sur l'élément fautif. Et on a accusé cette aide-soignante qui avait été placée là par une décision organisationnelle, n'est-ce pas ? On l'a accusée de la faute pleinement et même d'exercice inégal de la fonction d'infirmière alors qu'on lui avait imposé. Et donc, s'enclenche une affaire judiciaire. Elle met, pour arriver à son terme, elle met exactement 4 ans. Dans le même temps, et là on doit louer notre fonctionnement hospitalier parisien, car la direction de l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique est avertie, bien entendu, d'un tel incident, et elle déclenche immédiatement une enquête interne. Elle envoie 2 inspecteurs qui font une excellente analyse. À l'heure actuelle, leur type de démarche sous l'angle de ce que nous prônons, c'est-à-dire une analyse systémique. Où cela a-t-il lâché ? Pourquoi cela a-t-il lâché ? Et ils découvrent une masse de défauts d'organisation qui finalement créaient une situation propre à l'accident grave. Ils font une excellente analyse dans 8 jours après que ça se soit produit. Et puis, tout ceci est consigné d'ailleurs ultérieurement dans les décisions du tribunal in fine. Et puis, il y a une information, ils reviennent, ils sont mandatés à 4 mois d'intervalle pour voir ce qui se passait. Et ils constatent que rien n'avait changé dans l'organisation, c'est-à-dire qu'elle continuait à comporter les mêmes potentialités d'accidents graves. Vous voyez déjà là, il n'y a pas eu une conscience de haut niveau des équipes intéressées, et on le voit bien par l'analyse du procès, il n'y a pas eu conscience de la défaillance d'ordre systémique. Ils sont rentrés malheureusement tous, depuis la directrice de l'hôpital jusqu'au chef de service, etc. Ils se sont laissés emprisonner dans la grande question « à qui la faute ?». Et chacun n'a eu comme ceci de dire « ça n'est pas de ma faute ». Et on a eu 13 personnes in fine se trouvant au dernier stade devant le tribunal, et chacune essayant de dire « ça n'est pas de ma faute ». Voilà.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Nous retrouvons Georges David et Claude Sureau au sujet de l'erreur médicale. Nous évoquions à l'instant l'affaire Trousseau. Vous disiez qu'au bout de 4 mois, rien n'avait changé. Est-ce qu'il y a eu d'autres vérifications depuis ? Et est-ce que les conclusions de l'enquête interne ont servi aussi à la justice ou pas du tout ?
Ah, je pense que les conclusions de l'enquête interne ont effectivement, dans une certaine mesure, servi de base à la décision judiciaire. Et c'est là qu'on, au fond, qu'apparaît un malaise, une incertitude de notre part. C'est que justement, il semble bien qu'il faille distinguer les deux ordres de problèmes. Et qu'en les mélangeant, on aboutit dans une certaine mesure à une relative confusion.
Distinguer les deux ordres de problèmes, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, finalement, quand on voit le jugement de l'affaire de Trousseau, on voit bien que ça a correspondu à la mise en cause de chacun des intervenants. Premier point. Avec les sanctions pénales, qui furent lourdes, et qui ont véritablement bouleversé, on peut dire, la vie et la carrière des personnes concernées. Bien évidemment, ceci doit être pris en considération quand on pense que la vie de la malheureuse mère dont l'enfant est mort a été également tragiquement bouleversée par cette mort. Parallèlement, il est intéressant de noter que lors du jugement, ou lors de l'enquête judiciaire, l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans son ensemble, a reconnu sa responsabilité. Et là, je crois que c'est une démarche extrêmement intéressante. C'était la première fois à ma connaissance qu'un organisme tel que l'assistance publique reconnaissait sa responsabilité personnelle dans la survenue d'un accident médical. Alors, ça ne s'est pas traduit par la mise en prison, bien sûr, des membres de la direction de l'assistance publique, mais ça s'est traduit par une sanction financière qui a été mise à la charge de cette assistance publique. Mais vous voyez, dans une certaine mesure, ce n'est pas une critique du jugement d'Outreau, mais dans une certaine mesure, on peut dire que cette décision, dont on comprend la nécessité, a entraîné une sorte de confusion des genres.
Et c'était le jugement de Trousseau.
J'ai dit Outreau, pardon.
C'est de Trousseau. Revenons au contexte médical.
Le lapsus est là, tout à fait révélateur, effectivement, dans l'affaire de Trousseau. Ça a entraîné une certaine confusion des genres. Parce que l'enquête à laquelle Georges David faisait allusion à l'instant même, l'enquête interne, elle aurait dû normalement conduire à des décisions préventives qui, en l'occurrence, n'ont pas été mises en application. Oui. Alors, on peut espérer que ça le soit dans l'avenir. Oui. Mais vous voyez, ça révèle bien que, dans une certaine mesure, il y a deux ordres de réflexion. La réflexion, en quelque sorte, rétrospective, judiciaire, juridictionnelle, et la réflexion prospective d'analyse des causes de manière à aboutir à la prévention. Et le drame, et là il y a un problème, nous avons un problème, alors qu'il faut bien reconnaître, c'est que, vous savez que pour toute décision médicale, concernant un procès en responsabilité, pour toute décision de cet ordre, décision judiciaire, pas médicale, décision judiciaire, eh bien, il y a des experts qui ont à donner leur opinion. Et là il y a un problème. Et c'est un problème qui nous met un peu mal à l'aise. Parce que les magistrats eux-mêmes commettent les experts avec une mission d'expertise très précise. Et cette mission d'expertise, c'est là l'articulation de notre réflexion. La mission d'expertise n'est pas de dire qu'est-ce qui ne va pas dans la chaîne des événements médicaux, elle est de dire quelle est la responsabilité de monsieur ou de madame un tel au sein qui a été à l'origine de cet accident. Vous voyez la différence, elle est fondamentale. C'est donc une tentative parfaitement judicieuse de mettre en évidence la responsabilité de chacun ou de plusieurs personnes, mais elle n'est absolument pas dirigée dans le sens de la réflexion aboutissant à la prévention. Donc les magistrats, et nous le déplorons, ne sont pas conduits à poser des questions. Ça, au fond, on peut même aller jusqu'à dire que ça n'est pas leur travail, parce qu'ils sont là pour sanctionner. Et par voie de conséquence, les experts qui sont commis ne sont pas amenés eux-mêmes à définir les défaillances du système. Vous voyez qu'il y a donc une énorme place à côté, qui est précisément l'analyse systémique débouchant sur la prévention, dont nous disons, et c'est l'idée générale de ce rapport, qui doit être confiée à un autre organisme qu'à l'autorité judiciaire.
Alors, le problème est bien posé. Séparation des deux systèmes. Mais il y a une inégalité à l'heure actuelle, parce que le système judiciaire, il existe depuis très très longtemps, il a imposé en quelque sorte son point de vue jusqu'à présent à la médecine, c'est-à-dire que on raisonne sous l'angle de la culpabilité de l'accusation.
Est-ce qu'historiquement ça a toujours été le cas ou est-ce qu'on a vu des évolutions dans cette appréhension?
Non, c'était récent. Maintenant, nous cherchons à provoquer cette évolution parce que il faut qu'il y ait un deuxième système complètement détaché du premier avec le souci de prévention. Mais malheureusement, et on le voit bien, l'affaire de Trousseau, elle mérite justement d'être analysée. C'est que au niveau du jugement judiciaire, déjà, il y a eu cette notion, comme vient de le dégager parfaitement bien Claude, d'une responsabilité complexe et multiple. C'était typiquement, il ressentait qu'il y avait quelque chose de systémique dans l'affaire, mais ils ne sont pas placés et orientés pour le pointer. D'autre part, la justice, c'est peut-être un de ses avantages, tout en étant un inconvénient, mais des années avant de se prononcer. Or, il faut intervenir très vite dans le domaine de la prévention. Le même événement pouvait se reproduire dans les quelques mois suivants. Et nous voyons, et quand on analyse bien le système de défense des différents interpellés dans cette affaire, soignants, qu'ils n'ont eu que ce seul souci de sauver leur responsabilité. Ce qui explique que la persistance, on a touché à rien. Parce que, en arrière-plan, ce qui parasite la démarche que nous essayons d'imposer, de généraliser, c'est justement cette démarche d'ouverture, de déclaration de l'ennui. Mais comme en arrière-plan, il y a le spectre du judiciaire, c'est un obstacle. Il ne faut pas se cacher que c'est un obstacle. Comment le vaincre alors que c'est tellement nécessaire? C'est en faisant les deux circuits et en garantissant peut-être dans le premier circuit un certain anonymat. Alors, c'est ce qu'on fait bien avant nous, et là, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces idées que nous développons. Il y a 15 ans qu'elles ont commencé à apparaître aux États-Unis. Il y a 5 ans qu'elles sont passées en Angleterre et qu'elles ont été adoptées. Mais nous sommes dans un mode judiciaire que Claude Sureau pourrait mieux que moi, du fait de ses compétences dans ce domaine des juristes, qui est très, très différent. Que nous craignons, c'est que après avoir obtenu l'ouverture d'esprit, la révélation de l'erreur en vue de son analyse, ces éléments qui servent à la prévention soient captés tout d'un coup par la démarche judiciaire. Parce qu'à la différence des pays anglo-saxons, le juge chez nous, qui va être commis en cas d'accident grave, va pouvoir se saisir de toute pièce. Donc, nous avons deux objectifs maintenant à réaliser. Un changement de culture de la part du corps soignant. Deux, ce changement de culture n'est possible que si on le met à l'abri et qu'il ne fournisse pas lui-même des éléments qui se retourneraient contre lui en cas d'affaire judiciaire.
Certaines spécialités sont plus affectées que d'autres par cette question de la judiciarisation. Est-ce qu'il y aurait des mesures particulières à prendre pour elles, pour accélérer la prévention tout de suite, ou et quelles sont les solutions dans ce domaine ?
Là aussi, c'est une question délicate que vous posez là. Je pense qu'il n'y a pas... Alors, les spécialités en question, elles sont faciles à définir. C'est la chirurgie, l'anesthésie et la mienne, la gynécologie obstétrique, bien entendu. Peut-être la gynécologie obstétrique tout particulièrement... Et peut-être tout particulièrement la partie obstétricale de la gynécologie obstétrique, parce que la partie obstétricale concerne l'enfant à venir, et on l'a bien vu avec une affaire qui est restée extrêmement célèbre, l'affaire Perruche, qui d'ailleurs pose aussi un problème de responsabilité systémique. Peut-être que Georges David il a étudié la question très à fond, il pourra en dire un mot. Mais on voit bien le défaut, le problème majeur qui se pose. C'est intéressant à voir sur le plan historique. Vous posiez la question il y a un instant, vous disiez, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Alors, je peux vous dire, parce que j'ai étudié le problème de très près, jusqu'à la Révolution française, au fond, il y avait peu de problèmes qui se posaient. L'une des toutes premières histoires médicales, de responsabilité médicale réglée par une décision de justice, a été l'affaire qu'on a qualifiée d'affaire Élie ou l'affaire Foucault. C'est une histoire obstétricale, tout à fait d'une grande tristesse. C'est un enfant qui était dans une situation telle qu'il ne pouvait pas naître. Et la seule manière que le praticien, le docteur Élie, a pu trouver pour le faire naître a été de l'amputer d'un bras et d'un avant-bras. Ce qui fait que l'enfant est né, on croyait qu'il était mort, mais il est né vivant. D'où la première grande affaire judiciaire en médecine, qui date des années 1825-1830, et qui s'est soldée par la condamnation du docteur Élie.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission. Nous retrouvons Georges David et Claude Sureau au sujet de l'erreur médicale. Nous avons commencé à aborder à l'instant l'histoire des aspects juridiques en fait de l'erreur médicale, notamment ce qui concerne l'obstétrique. Claude Sureau, je vous laisse continuer.
Alors, cette affaire Élie Foucault était une affaire dramatique sur le plan humain, parce que avoir un enfant qui vit, il a vécu jusqu'à 8 ans, avec une amputation pratiquement des deux membres supérieurs est abominable, bien entendu. Mais affaire également intéressante, parce que, en fait, si on analyse bien la situation comme je l'ai fait, il est clair que la responsabilité du docteur Élie était nulle. Et donc, il a été condamné, là encore, par compassion. Et par suite, c'est assez curieux, d'un effet médiatique, car curieusement, les effets médiatiques ne sont pas uniquement contemporains, ils existaient déjà au XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que, je veux parler dans les détails de ce problème, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'évolution jurisprudentielle a été fondée très précisément, d'abord, sur un article très précis du Code civil 1382 qui définissait la responsabilité délictuelle. On avait fait une faute et on était sanctionné. Et puis à partir de 1936, de l'arrêt Mercier-Nicolas, on est passé à la responsabilité contractuelle. Article 1147 du Code civil qui aboutissait donc à dire « le médecin n'a pas rempli son contrat ». Mais à partir de là, et c'est là où le problème devient aigu et terriblement d'actualité, on peut dire que depuis 1936, mais surtout depuis les années 1996-1997, on a assisté à ce que je n'hésite pas à appeler une dérive juridictionnelle, que l'on peut comprendre par certains côtés, parce qu'elle était fondée sur la compassion. Il y avait un acte médical, il y avait une conséquence, je dis bien une conséquence chronologiquement explicite, mais pas forcément causale, de cet acte qui était un déficit, et surtout dans ce cadre dramatique des enfants. Parce que avoir une détérioration d'un état d'un enfant, cela suppose donc d'abord une souffrance humaine considérable, et bien suppose aussi sur le plan financier très précis la prise en charge qu'on appelait la tierce personne. Donc des charges considérables. Donc depuis en gros 1996-97, on a assisté à une inflation, pour des raisons compassionnelles, des décisions juridictionnelles. Et cette inflation a eu des conséquences que je n'hésite pas à qualifier de dramatiques.
Qui sont
qualifiées de dramatiques parce que, d'une part, premièrement, mise en cause de plus en plus fréquente, aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal, de la responsabilité des obstétriciens en l'occurrence. Deuxièmement, charge financière considérable du fait de l'exigence de tierce personne. Par voie de conséquence, augmentation des primes d'assurance. Et nous sommes entrés, il faut bien le reconnaître, c'est le problème actuel. Nous sommes entrés depuis 1997 dans un cercle vicieux, profondément vicieux, qui est augmentation des indemnisations, augmentation des primes d'assurance, par voie de conséquence, fuite du personnel. Je n'hésite pas à dire qu'en l'état actuel des choses, il n'est pas exclu que dans quelques années, il n'y ait plus en France d'obstétrique privée. Seuls pourront assumer les charges, les hôpitaux publics, on l'a vu à propos de l'affaire de Trousseau et d'affaires de cet ordre. Et les établissements privés ne pourront plus. Or, les établissements publics ne peuvent pas prendre en charge la totalité des 800 000 naissances annuelles en France. Vous voyez, donc il y a là un problème dont l'origine est très précisément à trouver dans certaines décisions, je n'hésite pas à le dire, de la première chambre civile de la Cour de cassation, et que la loi du 4 mars 2002 a tenté de corriger en mettant à la charge de la collectivité un certain nombre de prises en charge de conséquences de non-diagnostic de malformation, par exemple, mais ne l'a fait que d'une manière imparfaite. Et d'autre part, il est tout à fait clair qu'il y a une réticence extraordinairement forte des autorités judiciaires à appliquer d'une manière complète la loi du 4 mars 2002. Autrement dit, et je crois que c'est là un point intéressant à considérer, il n'est pas exclu que la périnatologie en général, l'obstétrique en particulier, ne soit affecté dans les années qui viennent par une crise d'une ampleur sans précédent. Il y a donc véritablement matière, je crois, à souci. Monsieur Kouchner, quand il était ministre de la Santé, avait parfaitement senti ce problème et tenté de le corriger par la loi du 4 mars. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, l'inquiétude subsiste et je crois qu'on ne peut être que très inquiet.
Une affaire qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, c'est celle du sang contaminé. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans l'évolution de l'appréhension du risque médical ou de l'erreur médicale ?
Elle a été conduite, cette affaire du sang contaminé, et exactement selon les principes que nous venons d'exposer. C'est-à-dire, on a vu l'angle judiciaire. Mais tout de même, elle est remontée, cette affaire, et on a vu des responsables politiques impliqués secondairement. Mais il a fallu attendre un certain temps pour qu'on s'occupe de l'aspect, celui que nous défendons, de la prévention systémique. Et c'est en effet très longtemps après que l'on s'est demandé pourquoi cela a-t-il dérapé. Et il y a eu de bonnes analyses sous l'angle systémique, mais venant vraiment extrêmement tard. Alors, elle a eu ces analyses, même secondaires, ont abouti à ce que on mette sur pied dans le sang, pour commencer, mais ça existe un peu au niveau du médicament, puis dans d'autres secteurs des soins, un système de détection un système d'alerte, en somme, et qui s'est appelé vigilance. Alors, on a vu presque simultanément se développer un système d'alerte pour des erreurs attribuées aux médicaments. Ça a été la pharmacovigilance. On a créé le terme de vigilance comme suffixe. Et puis, après l'affaire du sang contaminé, on a fait de l'hémovigilance. Puis, on a additionné, maintenant, on a fait une vigilance à propos du matériel utilisé, matériaux vigilance. Enfin, ça s'est décliné dans tous les secteurs. Alors, ça commence à être une démarche préventive, c'est-à-dire que l'on réagisse à la première alerte. Ce n'était pas encore poussé au point que nous souhaitons, mais tout de même, ça existait. Ce qui est un avantage, mais aussi un inconvénient, figurez-vous, parce que on a abouti, c'est une démarche très française, à créer chaque fois que l'on découvrait un secteur à risque, une vigilance adaptée à ce secteur. Et on a vu s'empiler les vigilances, comme je vous ai décrit. À l'heure actuelle, il y en a 5 ou 6 circuits. Alors même que, de la même manière qu'il ne faut pas traiter sous l'angle judiciaire, il ne faut pas traiter non plus sous l'angle étroit d'une discipline, parce que le pépin qui va se produire, il a été créé dans une discipline, mais peut-être qu'il va se signaler et apparaître dans une autre discipline. Et le cloisonnement français, mignon et grave péché de notre système politico-administratif, là, nous gêne dans la démarche. Donc, vous voyez bien que ce que nous souhaitons, c'est un changement d'attitude du corps soignant, mais que nous souhaiterions aussi qu'il y ait une compréhension du corps judiciaire, qu'il y ait une compréhension des niveaux décisionnels en matière d'organisation des vigilances, que tout ceci soit rendu cohérent. Parce qu'à l'heure actuelle, une équipe très sensibilisée, ça commence maintenant cette démarche, et qui va appliquer ce que nous souhaitons, la détection, le signalement d'une erreur, même si elle n'a pas eu de conséquences, ce qu'a appelé et a défini tout à l'heure Claude comme le presque accident. Ça va progresser par où, à qui ? Il faut que toute la chaîne de remontée et d'analyse, en déterminant d'ailleurs, il ne faut pas tout faire remonter. Autre spécificité de la médecine, c'est que s'il y a fort heureusement très peu d'accidents d'aviation chaque année, et nous, ça doit être quotidien, c'est presque accident. Donc il faut concevoir des niveaux d'analyse qui soient locaux, puis ensuite peut-être régional, et puis ensuite national. Et nos autorités décisionnelles ont de la peine, elles adhèrent un petit peu à ce que nous proposons, c'est vrai, mais elles ont de la peine encore à mettre en place le système ensuite qui permettra la mise en œuvre exacte. Donc, on a en somme beaucoup d'actions à conduire. On en a 3, j'en dégagerai 3. Une à l'égard du corps judiciaire, en lui demandant de comprendre notre point de vue, d'autant qu'il est touché lui-même maintenant par les mêmes, pour son propre fonctionnement, par les mêmes problèmes. Réfléchissons donc ensemble. Et puis nous avons ensuite un changement de culture. Et c'est peut-être là où une structure comme l'Académie, une académie de médecine, qui a des membres qui ont terminé leur carrière, trouve justement son utilité. Parce qu'on peut se prononcer, nous n'avons plus aucun conflit d'intérêt, plus aucun conflit, nous sommes totalement indépendants. Donc, c'est nous qui devons essayer de faire pénétrer. Le deuxième axe, c'est le changement de culture. Mais troisième besoin, c'est qu'une organisation suive, que l'intendance suive dans ce domaine. Voilà les 3 axes.
Une dernière petite question pour conclure. Est-ce qu'une application intelligente, je dirais, de la loi du 4 mars 2002 qui introduit la notion d'aléa suffit, ou est-ce qu'il faudrait, d'après vous, encore légiférer sur le sujet pour arriver à ce que vous souhaitez prôner, à savoir éviter une judiciarisation excessive ?
Votre question est également une question délicate. Comme cela, ma réponse spontanée serait de dire qu'en France, d'abord, il y a trop de lois. Même le vice-président du Conseil d'État l'a affirmé à plusieurs reprises. Il y a trop de lois, c'est un maquis dans lequel plus personne ne se retrouve. Donc une loi supplémentaire n'est probablement pas opportune. Je dirais plus, et ça rejoint la conclusion en quelque sorte que vient d'exprimer Georges David à l'instant même. C'est plus dans l'application et le changement de culture. Changement de culture, comme il l'a dit fort justement, de la part du personnel, personnel médical, du personnel de santé, mais changement de culture, plus encore, de la part des autorités juridictionnelles. Alors là, vraiment, vraiment, je pense que là, il y a une prise de conscience qui est nécessaire au sein des autorités juridictionnelles et sur le plan exécutif. Et on sent qu'il y a une amorce. La Haute Autorité de Santé, qui a été créée il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, et nous avons beaucoup travaillé avec eux, eh bien, il apparaît très nettement que la Haute Autorité de Santé est parfaitement consciente de ce problème. Et elle est en train d'y réfléchir. Donc, on peut conserver un certain espoir que sur les conseils de la Haute Autorité de Santé, parce que malheureusement, je disais le pouvoir exécutif, mais la Haute Autorité de Santé n'est pas un organe exécutif, c'est un organe de réflexion également. Donc, c'est au niveau des décisions ministérielles, au bout du compte, qu'il faudra que les choses soient organisées avec cette prise de conscience, encore une fois, et je crois que c'est ça l'élément central, le message central à faire passer, que la sanction, elle est souvent nécessaire. Il ne s'agit pas de s'en dégager, mais qu'à côté de la sanction, un élément capital pour la sécurité de nos concitoyens, finalement, c'est la prévention des accidents médicaux.
Merci beaucoup pour la clarté de vos explications. Georges David, Claude Sureau, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez co-dirigé un livre qui s'appelle « De la sanction à la prévention de l'erreur médicale » aux éditions Lavoisier, que vous avez également co-dirigé avec Dominique Lecourt « L'erreur médicale » au PUF. Et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette émission.